France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À la fin du mois de décembre, le barreau de Paris et l'entreprise Mistral AI ont conclu un partenariat pour permettre à des cabinets d'avocats de bénéficier gratuitement d'outils d'intelligence artificielle. Cependant, l'usage de l'IA dans le domaine de la justice suscite des inquiétudes qui touchent à la philosophie du droit, à la manière de rendre la justice, aux grands principes qui fondent un procès équitable, à la dimension humaine surtout de la chose jugée. Alors l'IA va-t-elle remplacer les avocats et les juges, rendra-t-elle un jour la justice? Trois invités pour en discuter, pour en débattre même ce soir. Sandrine Zientara-Loget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes magistrate, présidente de chambre à la Cour de cassation, directrice du service de communication, des études et du rapport de la Cour de cassation. À vos côtés, Camille Girard-Chanudet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes post-doctorante en sociologie au Centre Norbert Elias. Vous avez soutenu en 2023 une thèse intitulée « La justice algorithmique en chantier, sociologie du travail et des infrastructures de l'intelligence artificielle ». Et nous serons rejoints dans quelques instants par l'avocat Vincent Brengart, qui est coincé actuellement dans la tempête de neige qui traverse Paris. Il est avocat au barreau de Paris, justement, en droit pénal et liberté publique. Il est essayiste et il signe aux éditions Dialogue l'ouvrage intitulé « À armes inégales, face aux juges, le policier est-il un citoyen comme les autres ?» Merci à vous deux, prochainement à vous trois, d'être présents ce soir dans Question du soir. Et première question à la fois simple et vaste, Sandrine Zientara-Loget, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle et de justice, lorsqu'on évoque justement ces deux sujets, les algorithmes et la justice, on a souvent le sentiment que dans 2 ans, 10 ans, 20 ans, des juges seront même plus à même de rendre par eux-mêmes la justice, qu'ils seront peut-être un jour remplacés par des intelligences artificielles. Vous qui menez de front cette réflexion à la Cour de cassation, qu'en est-il? Nos magistrats seront-ils un jour remplacés par des IA?
Merci beaucoup pour cette question qui appelle, je crois, une réponse très directe. Non. Je ne crois vraiment pas que les magistrats sont appelés à être remplacés par l'intelligence artificielle. Ils sont appelés à être assistés, augmentés par l'intelligence artificielle, mais certainement pas remplacés. D'une part, ce serait légalement impossible en droit européen, mais aussi en droit français. Une décision ne peut pas être entièrement automatisée. D'autre part, à mon sens, ce serait techniquement impossible. Alors, je sais que les progrès de l'intelligence artificielle générative sont fulgurants et qu'on parle maintenant d'une super intelligence capable d'émotion, capable de stratégie, mais on n'y est pas et je ne vois pas de ce point de vue-là comment techniquement ce serait possible. Et puis enfin, je crois vraiment que éthiquement, ça n'est pas acceptable pour différentes raisons qui sont liées à la fois à l'humanité de la justice, qui est une institution de la relation, qui sont liées à ce qu'est le raisonnement juridique et qui sont liés à un certain nombre de droits fondamentaux qui seraient, à mon sens, menacés si le juge était remplacé par une intelligence artificielle.
Camille Girard-Chanudet, je redonne le titre intéressant, passionnant même de votre thèse, la justice algorithmique en chantier. On comprend bien que cette intelligence artificielle, elle pénètre peu à peu dans le domaine de la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Jamais l'intelligence artificielle ne remplacera les juges, les magistrats. C'est quasiment un engagement que vous pouvez prendre ce soir.
Ouais, j'irais tout à fait dans le sens de l'intervention précédente, d'autant plus qu'à mon sens, il est important, pour commencer en parlant de ce sujet, de déconstruire un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. On parle de cet objet comme si c'était un objet quasiment magique, tombé du ciel, qui viendrait remplacer les professionnels du droit. En fait, quand on regarde en pratique de quoi on parle, il y a beaucoup d'outils différents, des outils qui sont des outils d'aide à la rédaction, des outils qui servent à anonymiser les décisions de justice, comme c'est le cas à la Cour de cassation, des outils d'analyse du contentieux. C'est des outils, il y a quasiment autant d'outils que de contextes dans lesquels ils sont mis en œuvre et dans lesquels ils viennent s'articuler plus ou moins étroitement avec la pratique des professionnels sur le terrain qui sont nécessaires, absolument nécessaires, pour accompagner, corriger, surveiller les résultats qui sont produits par ces dispositifs algorithmiques.
Mais qu'est-ce qui vous permet, entre guillemets, je le dis d'une manière provocante, mais d'être si sûr de vous, si je puis me permettre, comment êtes-vous certaine que jamais une intelligence artificielle, encore une fois, un algorithme qui se fonderait sur une macro-analyse des décisions d'ores et déjà rendues par la justice pourrait, elle aussi, rendre des décisions de justice. Camille Girard-Chanudet, pour commencer.
Pour moi, il y a une question de formulation de la question. Pour moi, on n'est pas tant dans est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les professionnels du droit, mais plutôt qui se trouve derrière cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme je le disais, n'est pas un objet autonome qui tomberait du ciel, mais c'est des outils qui sont conçus par des personnes. Vous parlez de l'outil qui est conçu par Mistral, qui vient de conclure un partenariat avec le barreau de Paris. Mistral, c'est une entreprise avec des concepteurs, on a des ingénieurs, des data scientists, des annotateurs qui participent à tout ce travail de façonnage d'un outil qui va ensuite pouvoir en effet produire des résultats, mais c'est pas des résultats automatiques qui seraient tombés de nulle part. On a éventuellement des déplacements, en effet, du travail. L'intelligence artificielle, elle supprime pas le travail, elle remplace pas les acteurs, mais en effet, elle déplace le travail, elle le transforme, elle le recompose, et pour moi, c'est plutôt cette question-là à laquelle il faudra s'intéresser dans les prochaines années qu'à la question du remplacement.
On va s'y intéresser, évidemment, mais je continue de creuser un petit peu. Je comprends pas en quoi votre réponse, justement, nous éclaire sur le fait que l'intelligence artificielle, d'une manière technique, autonome, peut-être en parallèle des magistrats actuellement, sera à même techniquement de rendre une décision de justice, j'ai envie de vous dire, à ce stade de la réflexion, peu importe qui se trouve derrière, non ?
Tout est la question aussi de qu'est-ce qu'on considère comme une décision de justice. La décision de justice aujourd'hui, c'est l'acte, le résultat de l'acte des magistrats, c'est défini de cette façon-là. En effet, l'intelligence artificielle peut produire un texte qui ressemble à une décision de justice. La question, ça va être, est-ce que collectivement, est-ce que politiquement, on a envie d'opérer cette transformation-là et de considérer qu'un acte généré automatiquement peut être une décision de justice ? Je pense que les professionnels du droit, et notamment les magistrats, sont des professions qui disposent de nombreuses ressources pour défendre leur légitimité professionnelle à produire des décisions de justice et que dans cette mesure-là, notamment parmi plein d'autres raisons, c'est en effet peu probable et c'est ça que je rejoins votre intervention, que les décisions soient rendues automatiquement.
Sandrine Interaloget.
Oui, alors je partage complètement ce que vient de dire Camille. C'est pas, enfin votre question d'abord, quant à l'effet, est difficile parce qu'elle est prospective. Et je ne suis pas scientifique, donc je ne suis pas en capacité évidemment de prédire ce que sera l'avenir.
Mais c'est pour ça que je m'interroge sur vos certitudes partagées.
Mais c'est parce que c'est un choix éthique, en fait, par ce nom un peu rapide que j'ai immédiatement énoncé, je veux dire qu'il ne faut pas plus que ça ne sera pas. Je crois à cet égard qu'il faut vraiment préserver l'humanité de la justice et en l'état, on sait qu'il y a un risque épistémologique par rapport à ce qu'est le raisonnement juridique que de le confier à une intelligence artificielle.
Lequel alors ?
Alors, lequel ? Il y a le fait que dans le raisonnement juridique, le Carbonnier disait déjà que le raisonnement juridique n'était pas un pur syllogisme.
Carbonnier rend grand professeur
voilà.
De droit. Hein.
Et c'est quelque chose qui me paraît une évidence en tant aussi que praticien du droit. Tout raisonnement juridique n'est pas modélisable par une IA, n'est pas réductible à un calcul objectif et prévisible. Il y a une part, par exemple, d'analyse conséquentialiste où on va prendre en compte des éléments d'évolution sociale, sociétale, économique, éthique. Il y a aussi, alors notamment dans une cour suprême comme la Cour de cassation, mais aussi pour les juridictions du fond, la nécessité parfois de conduire une analyse axiologique, de mener un contrôle de proportionnalité.
Axiologique, c'est-à-dire fondé sur les valeurs.
Sur les valeurs. Et il me semble que ce sont des domaines qui ne peuvent pas, ne doivent pas être confiés à une intelligence artificielle. Et juste pour terminer et expliquer pourquoi j'ai été si affirmative tout à l'heure, c'est que à l'heure actuelle dans le monde, il n'y a, semble-t-il, aucune justice entièrement robotisée. Je tire cela du dernier rapport de la CEPEJ sur les développements de l'intelligence artificielle essentiellement en Europe, mais aussi dans le monde. Donc, je crois qu'on est quand même très loin de cette justice robotisée, même si sur des contentieux très simples, barémisables, de masse, la question se pose. Mais il y aura, à mon sens, toujours un contrôle humain, et il faut surtout poser la règle selon laquelle le juge pourra toujours s'écarter d'une solution proposée par l'IA pour l'adapter aux spécificités de la situation et pour faire preuve aussi de subjectivité, d'intuition.
Et maintenir ce principe fondamental de l'individualisation de la peine et du procès. On va y revenir car ça soulève des questions fondamentales. Mais avant cela, Camille Girard-Chanudet, sur le plan technique, j'allais dire, qu'est-ce que l'IA ne peut pas réaliser aujourd'hui du point de vue du raisonnement juridique? Où sont ses limites?
Il y a quelque chose d'assez intéressant avec l'intelligence artificielle. Alors, celle dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'apprentissage automatique, qui sont des outils qui traitent de façon massive des données fournies en entrée et qui produisent ces résultats à partir de cette analyse statistique massive des données fournies en entrée. Le fonctionnement de ces outils-là, c'est un fonctionnement probabiliste. C'est-à-dire qu'on va analyser des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de décisions de justice. Et à partir de cette analyse-là, on va pouvoir prédire, par exemple, je mets tous les guillemets possibles autour de ce terme-là, l'issue possible d'un prochain contentieux, par exemple.
Statistiquement.
Statistiquement, à partir de l'analyse de données fournies en entrée. On est sur un mode de raisonnement qui est un mode de raisonnement algorithmique, probabiliste, mathématique, qui est un mode de raisonnement complètement différent au mode de raisonnement juridique dont Sandrine parlait tout à l'heure, le syllogisme juridique, cette articulation d'une règle de droit abstraite, théorique et de faits, des faits particuliers d'une affaire qu'il va falloir sans cesse articuler. L'expertise juridique, l'expertise des professionnels du droit, c'est celle-ci spécifiquement qui vient se confronter, parfois se heurter, ou alors entrer en complémentarité, c'est selon les situations, mais avec cette autre façon de traiter l'information, qui est en tout cas pas du tout la même.
Pour bien comprendre ce qui est dit, ce qui est explicité là, Sandrine de Zientaralogès, cela signifie qu'une intelligence artificielle serait incapable de produire de la jurisprudence, c'est-à-dire de juger comme cela n'a pas toujours été le cas en l'occurrence ?
Exactement, je crois que vous mettez le doigt sur l'essentiel. Certains disent de l'intelligence artificielle que c'est un perroquet stochastique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne raisonne pas, elle n'innove pas. Elle
stochastique,
crée,
c'est-à-dire statistique en
voilà,
gros.
Voilà, statistique de répétition de ce qui a été. Elle va créer, elle va générer une solution, mais cette solution ne peut pas être innovante, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter d'un juge automatisé, outre les raisons humaines que j'évoquais tout à l'heure, parce que la jurisprudence se doit d'évoluer pour s'adapter aux évolutions sociales, sociétales, économiques, environnementales, par exemple.
Bonsoir Vincent Brengart.
Bonsoir.
Merci d'avoir bravé la neige et de nous avoir rejoint un peu plus tard. Vous avez signé dans le journal Le Monde une tribune qui met en lien justement la profession d'avocat et l'intelligence artificielle. Je vous cite, l'irruption de l'IA induit indéniablement pour un certain nombre de professions un bouleversement dont nous ne pouvons pas encore mesurer la portée. Il s'agit, à n'en pas douter, de la fin d'une ère. La technologie n'accompagne plus simplement la pensée, elle prétend la remplacer. Les avocats n'échappent pas à cette révolution technologique. Si les applications de l'intelligence artificielle peuvent favoriser l'exécution d'un certain nombre de tâches, on y reviendra, accélérer la sacro-sainte productivité, elles n'en demeurent pas moins des menaces pesant tant sur la pratique de notre profession que sur sa philosophie. Fin de citation. En quoi la philosophie de la profession d'avocat est-elle aujourd'hui menacée, du moins ébranlée par l'intelligence artificielle ?
Je pense qu'en fait, c'est une mutation technologique qui n'a pas uniquement un effet sur l'efficacité et sur la productivité, mais qui est aussi un changement philosophique dans la conception que nous avons de la profession. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple évolué avec des avocats d'une soixantaine d'années qui écrivaient leurs conclusions à la main, qui les faisaient dactylographier. Et on leur a dit au départ, Internet, l'ordinateur, là aussi c'était des innovations, et on a pensé que ça pouvait avoir une incidence sur leur manière de travailler. Et il y a eu une incidence. Il y a eu une incidence, mais en fait c'était une incidence qui a permis une accélération dans le traitement de l'information, une accélération surtout dans la capacité de produire des écritures, dans la capacité de produire de produire du travail. Maintenant, la différence fondamentale, me semble-t-il, avec l'intelligence artificielle, c'est que on n'est pas simplement sur un rapport de productivité, on est sur une intelligence de substitution. intelligence de substitution, parce que même si vous avez encore, et je le vois bien même au cabinet, par rapport aux jeunes générations que nous pouvons avoir, qui sont soit en stage, soit des juristes en formation, finalement vous avez un peu deux écoles. Vous avez la première école qui ne va pas se confronter et qui ne va pas avoir d'esprit critique à l'égard du résultat obtenu par le biais d'une recherche, par le biais de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire, pardonnez-moi, ces professionnels vont utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elles sont confrontées à un problème juridique et elles vont prendre pour argent comptant le résultat proposé par l'IA générative.
C'est exactement cela. C'est-à-dire que déjà un premier point, c'est que aujourd'hui l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les cabinets d'avocats. Elle est de plus en plus utilisée dans les cabinets d'avocats parce qu'elle devient quasi incontournable.
En transparence avec vos clients.
En transparence avec nos clients. Après, en tout cas, moi je peux pas évidemment m'exprimer pour la totalité de la profession, mais nous pouvons parfaitement l'évoquer. Elle est utilisée à deux titres. Elle est utilisée non seulement, par exemple, pour des tâches qui sont des tâches relativement basiques, et par exemple la rédaction de courriers, donc typiquement via ChatGPT, et elle est utilisée également, par exemple, pour des recherches juridiques, et cette fois avec soit d'ailleurs ChatGPT, soit des logiciels qui sont des logiciels qui sont plus adaptés et qui sont développés par des éditeurs juridiques. Éditeurs juridiques qui, aujourd'hui, sont de plus en plus en capacité, d'ailleurs, de même de faire des modèles d'actes, et en tout cas de tendre vers un quasi-travail fini. Et par rapport à ces deux écoles. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que vous avez aujourd'hui parfois des juristes en formation qui viennent, auxquels vous allez demander par exemple une recherche, et puis qui vont venir avec le fruit de la recherche, qui va peut-être contenir la bonne réponse, mais qui seront en fait dans l'incapacité de vous expliquer le raisonnement ou les raisons pour lesquelles, en fait, ce serait cette solution et pas une autre. Et ça, je pense que c'est assez dramatique, parce que moi, la manière, en tout cas, dont j'ai appris le droit, c'est que tout est aussi dans la recherche. Parce que lorsque vous avez une solution juridique, ben, en fait, tout le raisonnement, ça consiste aussi à penser pourquoi est-ce que vous avez écarté telle ou telle solution. Et c'est pas uniquement dans le fait d'avoir la bonne réponse, mais c'est dans une capacité de raisonnement. Et si vous la substituez, et si, bien, c'est l'intelligence artificielle qui s'en occupe, eh bien, de fait, vous la perdez, et puis il peut y avoir une tentation à l'assistanat.
Camille Girard Chanudet, en tant que sociologue du travail, là, comment est-ce que vous analysez ce discours ? Est-ce que c'est une crainte, au fond, pour la profession d'avocat ? Je vous redonnerai évidemment la parole pour votre métier, la richesse de ce que permet votre profession, ou est-ce que c'est une crainte plus généralement pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour la qualité du service rendu aux clients ?
Oui, c'est assez intéressant. En fait, je pense qu'on a un enjeu avec l'intelligence artificielle à la resituer aussi dans une dynamique historique longue. Les dynamiques dont vous parlez, en effet, elles sont à l'œuvre aujourd'hui, mais elles n'arrivent pas avec l'intelligence artificielle. On a beaucoup de dispositifs qui, depuis des décennies, voire beaucoup plus longtemps, finalement, cherchent déjà à cadrer, à automatiser les pratiques professionnelles dans le domaine du droit. Je pense à des trames de rédaction, à des barèmes, à des référentiels. L'intelligence artificielle, elle s'inscrit en continuité de ces outils-là. Elle pose des problématiques spécifiques, mais je pense que c'est des questions qui ont déjà habité, en fait, depuis longtemps, les professionnels du droit, et qui vient en effet bousculer des pratiques et qui interroge sur comment est-ce qu'on forme à l'usage de ces outils-là. En effet, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, notamment l'IA générative, les professionnels ne sont pas encore formés, sont en tout cas en train d'être formés à ces outils-là. La question, c'est former aussi à ce que peut faire, ne peut pas faire l'IA. En effet, une IA générative, je le disais tout à l'heure, les IA fonctionnent de façon probabiliste. Donc, quand l'IA va générer un texte, elle va générer un texte qui a des probabilités d'être vrai, mais n'est pas certainement vrai. Donc les IA se retrouvent par exemple à générer des plaidoiries qui citent des cas passés complètement factices parce que c'est ce que fait l'IA générative. Bon bah là on est un peu dans un moment, à mon sens en tout cas d'entre deux, où on n'est pas encore formé les professionnels du droit, mais les professionnels au-delà du monde du droit aussi ne sont pas encore forcément formés à ce mode de fonctionnement de l'intelligence artificielle et du coup l'utilisent pour lui faire faire des choses que ces outils ne savent pas faire. Et donc pour moi on a un enjeu de démystification de l'IA aussi. Justement c'est cet outil soi-disant magique, comme je le disais, on a l'impression qu'on peut tout lui faire faire. Quand on comprend ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne, qu'elle fonctionne à partir de l'analyse statistique probabiliste de données, qu'on va pouvoir avoir tels ou tels usages, on pourra reparler des usages qui en sont faits à la Cour de cassation, j'imagine, on peut l'orienter vers des finalités qui peuvent servir les professionnels du droit. Quand on ne sait pas l'utiliser, en effet, on peut aussi aboutir à des finalités problématiques pour la profession.
Vous avez employé un peu plus tôt dans cette conversation, Sandrine Zentaraloger, une expression, celle de magistrats augmentée, celle de magistrats assistés hein, et à la place de magistrats remplacés par l'intelligence artificielle. Concrètement, là aussi, dans le travail quotidien du magistrat, ce serait quoi dans 2, 5 ou 10 ans un magistrat assisté ou augmenté par l'intelligence artificielle ?
Alors, l'intelligence artificielle est certainement capable de faire gagner beaucoup de temps aux magistrats.
Comme aux avocats,
on peut lui déléguer un certain nombre de tâches chronophages et sans grande valeur ajoutée humaine. On peut aussi accélérer, gagner un peu de temps dans la recherche juridique, même si après, il y a toujours un travail de vérification humaine très très important à effectuer, puisque l'IA peut se tromper et l'IA, on l'a vu, a ses limites. Et puis, l'IA peut aussi avoir un atout intéressant, qui n'est pas cette fois mesurable en termes d'efficacité de la justice, mais bien plutôt de qualité. Par exemple, l'IA, et c'est comme ça qu'on entend l'utiliser à la Cour de cassation, par exemple, permet de repérer dans les pourvois qui arrivent les connexités intellectuelles entre les pourvois et donc de les traiter ensemble.
Les
requêtes qui saisissent, qui permettent aux justiciables, par l'intermédiaire d'un avocat au conseil, de saisir la Cour de cassation. Donc, ces dossiers posent souvent des questions de droit nouvelles, des questions de droit émergentes. Il y a parfois des litiges sériels. Et par l'intelligence artificielle, on peut les repérer et à ce moment-là, rationaliser la manière dont on les audience pour les traiter en même temps et voir un problème dans toutes ses implications, dans toute sa complétude juridique. Et puis l'autre apport incommensurable de l'intelligence artificielle, c'est la possibilité d'analyser une grande masse de données jurisprudentielles. Et ça, ça peut permettre d'avoir une justice aussi plus éclairée, qui a une vision au niveau de la Cour suprême, par exemple, des grandes tendances de la juridiction du fond. Ça vient enrichir, en fait, le débat juridique. Et ça, ça augmente, à mon sens, la capacité du juge, parce que ça élargit son champ de vision, sans toutefois, d'aucune manière, porter atteinte à son office.
Est-ce que ça vous effraie, cette notion, Vincent Brengart, en tant qu'avocat, cette notion de magistrat assisté par l'intelligence artificielle, de magistrat augmenté? Est-ce que le poids, j'allais dire, d'un travail mené par l'intelligence artificielle pourrait influer d'une mauvaise manière, moins humaine sans doute que ce qui se déroule dans le cadre d'une cour, tout simplement? Est-ce que cela, c'est quelque chose qui peut effrayer l'avocat que vous êtes?
Oui, très clairement. Parce que, mais c'est pas tant finalement cette vision que je rejoins pour partie que le fait qu'elle s'inscrive en fait à un temps donné. Et surtout moi la projection qui m'inquiète, c'est-à-dire que autant aujourd'hui on pourrait estimer effectivement que il y aurait une capacité d'augmentation intellectuelle parce qu'en fait nous avons la chance en fait d'avoir eu des formations qui étaient des formations soit de papier soit un moment où les outils n'étaient pas aussi développés et par conséquent en fait nous abordons l'intelligence artificielle parce qu'elle n'était pas inscrite dans nos diplômes universitaires comme étant un outil complémentaire à la formation intellectuelle que nous avons reçue.
Ce qui n'est pas le cas pour les générations à venir.
Mais bien sûr, parce que même pour reprendre l'exemple d'ailleurs du travail et de l'augmentation du travail, ne serait-ce que sur une question de recherche juridique ou de conclusion, vous utilisez l'intelligence artificielle par gain de temps. Vous allez demander vous allez poser une question à l'intelligence artificielle, vous allez demander de rédiger des conclusions ou des écrits pour telle ou telle matière. Mais étant donné en fait les connaissances quasi abyssales que va avoir l'intelligence artificielle, comment allez-vous en capacité de pouvoir vérifier et de contrôler les informations? Je veux dire, parce que ce gain de temps que vous allez avoir en faisant usage de l'intelligence artificielle, vous allez le faire disparaître au moment de la vérification et du contrôle des sources, qui prend en fait quasiment autant de temps que si vous aviez établi vous-même la recherche.
Bon, mais je vous pose une question naïve, si on pourrait aussi se dire, dans 5 ans, 10 ans, après tout, l'intelligence artificielle ne commettra pratiquement plus ce type d'erreur et ce sera simplement une aide, un appui, vous n'aurez pratiquement plus à vérifier ce qu'elle vous soumet.
Mais dans ce cas, ça veut dire aussi que si nous n'avons plus à vérifier ce qu'elle soumet, ce sera aussi bien valable pour les avocats que les magistrats. C'est-à-dire que, puisque précisément vous allez avoir, et on serait susceptible d'avoir des écrits d'un approfondissement extraordinaire, inhumain, par nature inhumain, eh bien, de fait, le contrôle qui va intervenir, ce sera un contrôle d'intelligence artificielle. Et je crains une société d'opposition entre des écrits d'intelligence artificielle et un contrôle qui soit celui aussi de l'intelligence artificielle. Et après, un deuxième point, moi, c'est plutôt une conception, après, si je peux dire, si je devrais la qualifier un peu romantique de la profession d'avocat et de la profession de justice, où je considère que c'est une profession qui nous lie déjà, enfin, en tout cas, la matière du droit nous lie en tant que société, nous lie à travers les mots, nous lie à travers l'établissement du droit. Et en fait, si on commence à avoir une approche qui soit neutre du point de vue technologique, il y a une déperdition de cette dimension. Et il y a une déperdition, en fait, de son caractère humain, parce que, et c'est pas un magistrat, je pense, qui pourra me détromper, aujourd'hui, vous avez des décisions de justice, et notamment en matière judiciaire, peut-être même plus qu'en matière administrative, qui sont rendues selon la règle de l'équité, et pas forcément celle de la légalité, pas forcément celle du légalisme. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous opposez une intelligence artificielle extrêmement, extrêmement développée, elle va aussi perdre cette capacité d'équité et cette capacité en fait émotionnelle que vous ne pouvez pas avoir si vous ne rencontrez pas les personnes, que vous ne pouvez pas avoir si vous avez une appréciation en fonction de ce que vous êtes et en fonction du vécu aussi que vous avez.
À ce titre, je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un texte signé Paul Ricoeur, un extrait de l'acte de juger paru en 1995.
L'horizon de l'acte de juger, c'est finalement plus que la sécurité, la paix sociale. La finalité de la paix sociale fait apparaître en filigrane quelque chose qui touche à la reconnaissance mutuelle. Ne disons pas réconciliation. Parlons encore moins d'amour et de pardon qui ne sont plus des grandeurs juridiques. Parlons plutôt de reconnaissance. Mais en quel sens? Je pense que l'acte de juger a atteint son but lorsque celui qui a, comme on dit, gagné son procès, se sent encore capable de dire « Mon adversaire, celui qui a perdu, demeure comme moi un sujet de droit. Sa cause méritait d'être entendue. Il avait des arguments plausibles et ceux-ci ont été entendus. Mais la reconnaissance ne serait complète que si la chose pouvait être dite par celui qui a perdu, celui à qui on a donné tort, le condamné. Il devrait pouvoir déclarer que la sentence qui lui donne tort n'était pas un acte de violence, mais de reconnaissance. »
Je la trouve passionnante, cette notion de reconnaissance dans la justice, passionnante et féconde plus encore, Sandrine de Zenteraloget. Si on se projette là aussi, encore une fois, 5 ans, 10 ans, dans un monde où l'intelligence artificielle pourrait assister, même un peu plus qu'assister les magistrats, que devient cette notion de reconnaissance? Au fond, la dimension humaine de la chose jugée.
Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en réponse à votre première question, il faut éviter à tout prix une justice qui serait robotisée, parce qu'alors, cette finalité longue, Ricoeur dans d'autres textes parle de finalité longue du procès, ne peut pas se réaliser. Il est évident que le procès en présentiel est essentiel. Tom Taylor a aussi démontré que l'acceptabilité d'une décision de justice, alors en matière pénale, mais aussi en matière civile, tient autant à sa nature qu'à la manière dont elle est rendue. Et il est évident qu'il faut considérer toujours le justiciable comme digne de considération, comme un sujet, une personne à part entière. C'est essentiel pour que la justice remplisse cette finalité. Je suis vraiment, bien sûr, complètement convaincue, comme beaucoup de mes collègues, parce que les propos qu'on vient d'entendre de Ricoeur. Alors je reviens à l'IA. Si l'IA fait gagner un peu de temps, elle permet peut-être de consacrer plus de temps au justiciable, de consacrer plus de temps à l'audience et à ce temps qui permet de réaliser la reconnaissance. Alors, j'en reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de conditions à poser pour qu'on puisse réaliser, pour rendre à la fois possible une justice augmentée par l'IA et une justice qui donne toute sa place à la personne et à la reconnaissance de la personne. Alors, je rejoins complètement ce que vous avez dit, maître, sur la nécessité de formation, la nécessité de contrôle.
On va y revenir, mais un principe d'abord qui peut être remis en cause par l'intelligence artificielle, c'est le principe du contradictoire. Si le magistrat est assisté par une intelligence artificielle qui, non pas qu'il lui dicte ce qu'il doit prendre comme décision, mais qui lui trace un chemin possible, et que le magistrat n'a pas le recul nécessaire pour se dire au fond, ce n'est peut-être pas la bonne décision qu'on me soumet là, que l'intelligence artificielle me propose. Est-ce que ce principe du contradictoire n'est pas voué au néant, Camille Girard-Chanudet?
En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à interroger aussi par rapport à ça, c'est En effet, le professionnel du droit va avoir des difficultés éventuellement en fonction, et là il faut remettre en contexte, en fonction de la charge de travail, en fonction de l'urgence dans laquelle il faut rendre le travail, en fonction des moyens dont on dispose en juridiction, le magistrat peut se retrouver dans une situation d'urgence à ne pas avoir les moyens de questionner la proposition qui lui est faite par l'intelligence artificielle. Mais là encore, je pense que c'est essentiel de se réinterroger, de pas dire la proposition qui lui est faite par l'intelligence artificielle, mais par qui derrière l'intelligence artificielle, par quels acteurs qui ont construit cette IA, qui ont sélectionné les données, qui les ont préparées pour l'entraînement, qui ont calibré les modèles, qui ont finalement cadré les résultats qui sont produits par l'IA ne sont pas des résultats hors sol. Et donc du coup, ce principe du contradictoire, en effet, vient être questionné, mais vient pas être questionné par l'intelligence artificielle, mais par un écosystème d'acteurs qui vient se confronter, arriver en tout cas aux portes du monde de la justice, du monde des professionnels
du droit. Sandrine Dentaraloget, vous souhaitiez réagir sur ce point, sur ce principe du contradictoire possiblement ébranlé par l'intelligence artificielle.
Bien sûr, vous avez raison, l'intelligence artificielle, son usage pose un certain nombre de questions par rapport aux règles du procès équitable et en particulier du principe du contradictoire. Et il faut y réfléchir et il faut y réfléchir collectivement, bien entendu. Entendu avec le barreau. Alors, je précise qu'actuellement, il n'y a dans la justice aucune solution pour les juridictions du fond, pas d'usage de l'intelligence artificielle encore, et en tout état de cause, pour l'instant, aucun projet d'aide à la décision par intelligence artificielle. Mais si un jour on devait, par
officiellement,
exemple,
mais dans la pratique, est-ce que les magistrats, j'allais dire, l'utilisent parfois dans le secret de leur bureau, comme un chacun, comme beaucoup de professionnels, des dizaines, des centaines de secteurs.
Oui. Mais alors, il faut savoir que les IA généralistes. Sont vraiment pas du tout performantes en droit et que de surcroît, un magistrat ne peut pas introduire des éléments d'un dossier dans une de ces IA puisque il y aurait atteinte évidemment au secret professionnel s'il le faisait. Après, les IA proposées par les éditeurs juridiques et les legal tech sont évidemment plus performantes, mais aujourd'hui, outre qu'il y aurait aussi ce problème de préservation du secret professionnel, ces IA sont extrêmement coûteuses et à l'heure actuelle, le ministère n'a pas abonné les magistrats à ces IA. Mais sur le principe du contradictoire, ce que je veux dire par là, c'est que si un jour on venait à avoir une proposition, par exemple, de solution ou un résumé de dossier par une intelligence artificielle, de mon point de vue, cela devrait être soumis au contradictoire. Par exemple, on pourrait envisager, puisque l'IA rédige très vite, a des capacités de rédaction qui sont assez étonnantes, on pourrait imaginer un rapport, un résumé des faits par une intelligence artificielle et des prétentions des parties, mais à mon sens, il devrait être soumis à la contradiction, à l'audience, pour permettre une interactivité. Il faut vraiment utiliser l'IA dans le respect de nos principes fondamentaux.
Vincent Brengart.
Non, je suis parfaitement d'accord sur le fait que ça pose une difficulté du point de vue du contradictoire, du point de vue également du procès équitable, non seulement parce que il n'y aurait pas de transparence suffisante pour savoir s'il y a une utilisation de l'intelligence artificielle, et après aussi pour questionner la question de la neutralité de l'intelligence artificielle, qui est encore un autre débat.
C'est-à-dire dans la sélection. Pourquoi du point de vue du procès équitable, est-ce que on pourrait se dire après tout là aussi les deux parties pourraient utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que l'IA favorise une partie plutôt que l'autre théoriquement?
Je pense que l'IA est susceptible en fait de favoriser une partie plutôt qu'une autre parce que, à mon avis, on va rapidement se retrouver dans une situation de concurrence des IA. C'est-à-dire dans un nouveau marché, on a souvent parlé évidemment de la question de la rupture du numérique, des inégalités du numérique, et en fait il y a aussi des inégalités devant l'IA parce que, par exemple, vous pouvez avoir aujourd'hui des cabinets d'avocats qui se dotent d'outils extrêmement performants, et on y revenait tout à l'heure sur la question du coût des abonnements que ne peuvent pas avoir des structures plus petites. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le barreau de Paris a signé une convention pour rendre accessible l'intelligence artificielle à des petites structures. Mais on voit que non seulement la tendance va être à se doter de ce prévu outil, si ce n'est à les développer. D'ailleurs, c'est ce qu'on font certaines entreprises et ce que feront d'autres cabinets d'avocats. Donc effectivement, je trouve qu'il y a un point inhérent au principe du contradictoire où même si on part de toute façon toujours du principe que le juge est omniscient. Après tout, l'intelligence artificielle ne serait que des connaissances que serait déjà sans savoir le magistrat. Mais ça interroge sur le fait de savoir se dire que il prendrait sa décision en fonction en fait d'un outil qui est un outil complémentaire, mais que nous n'aurions pas forcément été en mesure de pouvoir déjuger, de pouvoir nuancer, relativiser. Il y a un deuxième point aussi qui me semble important par rapport aux propos que vous aviez tout à l'heure sur le fait que ce serait susceptible d'apporter une si je puis dire, de restaurer une dimension humaine, humaniste à la justice. La nuance que j'apporte à ce propos, c'est que je crains aussi que l'intelligence artificielle, en fait, s'inscrive dans un, dans un environnement multifactoriel où déjà, en fait, la justice commence à dégrader. C'est-à-dire que on a beaucoup dématérialisé la justice. De plus en plus, par exemple, les audiences sont des audiences. D'ailleurs, même il y a même plus d'audiences. Je veux dire, dans certains débats, ce sont des procédures écrites. On fait disparaître la question de l'oralité. On fait disparaître le justiciable. On
voit recours à la visioconférence.
Le recours à la visioconférence augmente. Que vous avez aussi le fait que nous sommes confrontés à des encombrements aussi bien des juridictions civiles que pénales, on l'a bien révélé encore il y a quelques jours sur la question du nombre de procédures pénales qui doivent encore être traitées. Et donc je pense malheureusement en fait que dans cet environnement, on va percevoir l'intelligence artificielle non pas comme une possibilité en fait de restituer cette dimension humaine, mais en fait de favoriser encore une fois des moyens de productivité face en fait à une dégradation qui m'était constante, même si elle a connu quelques améliorations ces dernières années, de la question des budgets qui sont alloués à la justice, et de se dire, tiens, on aurait là en fait une solution, de pouvoir apporter une solution à des problèmes qui sont en fait des problèmes récurrents que peut rencontrer la justice du point de vue des budgets, du point de vue du nombre de dossiers qu'elle a traités.
Vous posez, Camille Girard-Chanudet, en filigrane depuis le début de cette émission, cette question importante qui se loge derrière ces entreprises d'intelligence artificielle et qui pourraient, par le truchement de l'IA, participer à rendre des décisions de justice. Alors je vous pose cette question, qui se loge derrière ces entreprises et notamment derrière celles que l'on appelle aujourd'hui les legal tech?
Oui, il y a quelque chose de très intéressant, en effet, sur le fait de prendre en compte le contexte, justement, le contexte de la justice, le contexte des concepteurs de l'IA. Les legal tech, donc ces entreprises qui produisent ces outils d'IA, c'est des entreprises qui viennent de l'extérieur du monde de la justice. Hein, pour la plupart, les fondateurs des legal tech, c'est en majorité des diplômés d'écoles de commerce, des diplômés d'écoles d'ingénieurs, qui contiennent de plus en plus de juristes, mais qui, à l'origine, en fait, viennent vraiment de l'extérieur des mondes du droit et qui viennent bousculer les frontières des mondes du droit et qui viennent aussi bousculer les frontières non seulement dans la conception des outils mais aussi dans les clientèles qu'elles développent. Et je pense que c'est un point complémentaire à ce qui a été dit juste avant sur le contexte d'exercice du droit, un contexte qui est de plus en plus sous contrainte avec de moins en moins de moyens pour la justice. Les startups de la legal tech essayent de vendre leurs produits aux professionnels du droit, évidemment aux cabinets d'avocats qui sont des clients importants pour ces entreprises, mais c'est des entreprises qui vendent aussi leurs solutions à d'autres acteurs. Et là, je pense notamment aux compagnies d'assurance qui font partie des utilisateurs et des financeurs principaux de ces outils d'IA, de ces outils d'IA prédictifs notamment.
Qui fondent leur modèle présent actuel sur l'intelligence artificielle.
Absolument,
notamment.
Et qui vont utiliser ces outils aussi pour appuyer un processus de déjudiciarisation d'une partie du contentieux, en favorisant la gestion à l'amiable de litiges qui vont du coup ne pas se retrouver face aux juridictions. Et ça, à mon sens, on a eu des discussions là prospectives, mais c'est quelque chose qui est en train de se produire aujourd'hui, présentement, appuyé par l'intelligence artificielle et la légitimité particulière, cette légitimité algorithmique qu'elle confère à leurs utilisateurs. Et pour moi, là, on est sur un enjeu vraiment pressant de reconfiguration des équilibres professionnels appuyés par l'IA.
Merci beaucoup à tous les trois de ces éclairages inquiétants parfois sur le devenir de la justice. On est rassuré quand même que les professionnels comme vous soient au fait de ces évolutions majeures du point de vue technologique. Sandrine Zientaraloger, vous êtes magistrate, présidente de chambre à la Cour de cassation, directrice du service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation. Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris en droit pénal et liberté publique, essayiste. Vous avez signé, je le rappelle, à Armes inégales face au juge. Le policier est-il un citoyen comme les autres? C'est aux éditions Dialogue. Et Camille Girard-Chanudet, post-doctorante en sociologie au Centre Norbert Elias. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Juliette Moellic, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral. À suivre après le journal, Doctrine Monroe au fondement de l'intervention de Trump au Venezuela.